L'actualité des Alpes du Sud et l'éco-anxiété gagne-t-elle les Alpes du Sud ?
Un phénomène difficilement mesurable, pourtant 45% des jeunes en souffriraient aujourd'hui. Du côté des professionnels de la montagne, on peut aussi se montrer éco-anxieux, surtout que les guides sont bien souvent les premiers spectateurs du dérèglement climatique. Dans les montagnes des Écrins, ils ont développé le programme Guide Sentinelle pour référencer les changements observés sur le terrain.
Les agriculteurs bas-alpins, eux, se disent en colère.
Face à une administration qui les harcèlerait, ils ont manifesté vendredi. Margot Mégis, la présidente des JIA, espère beaucoup de son entrevue avec le préfet, notamment la création d'une police de contrôle de l'OFB et l'ONF.
L'école de demain repensée dans les Hautes-Alpes.
Une grande concertation est lancée depuis hier. 35 établissements sont volontaires. Ils ont un mois pour construire un projet pédagogique.
Et puis cette surprise des jeunes footballeurs de l'Argentière.
Alors qu'ils faisaient le plein dans une station essence de Chorges, ils sont tombés nez à nez avec Zizouf.
Et enfin, pas le droit à l'erreur hein, pour rejoindre les demi-finales de la Coupe de France de hockey sur glace.
Les Rapaces de Gap pourront compter sur leur public ce soir lors du match les opposant à Amiens Météo.
Ah, c'est encore bien chargé aujourd'hui sur les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence avec un temps qui va s'améliorer progressivement l'après-midi, mais uniquement sur les Hautes-Alpes car ça reste bouché toute la journée sur les Alpes de Haute-Provence. Les températures sur nos deux départements, les maxi de 5 à 8 degrés. Mais tout d'abord, cette information avec 30 clients d'un hôtel de Gap évacués en pleine nuit.
Un matelas a pris feu dans la nuit de ce lundi à mardi vers 3h40 au sein de l'hôtel Le Verdun, boulevard de la Libération. Les deux occupants ont réussi à éteindre l'incendie avant l'arrivée des pompiers qui ont tout de même procédé à des vérifications. Ils étaient 30 sur place avec la police et une équipe d'Enedis. Les deux occupants ont été évacués sur l'hôpital de la ville pour des contrôles. Quant aux autres clients, ils ont pu regagner leur chambre.
C'est le dossier de la rédaction sur Alpes 1. L'éco-anxiété concerne-t-elle les jeunes des Alpes du Sud ?
L'éco-anxiété, c'est un néologisme qui désigne le sentiment de fatalité vis-à-vis du réchauffement climatique. 45% des jeunes en souffriraient aujourd'hui, avec parfois des troubles du sommeil, une perte de poids ou un comportement dépressif. Le lycée Pierre-Gilles de Gênes à Digne-les-Bains a pu mesurer ce phénomène la semaine dernière lors d'une campagne d'information auprès de ses élèves. Quant aux professionnels de la montagne, sont-ils éco-anxieux ? Parfois, car ce sont eux les premiers spectateurs du changement climatique. Dans les Hautes-Alpes, ils ont encore espoir d'alerter avec le programme Guide Sentinelle qui collecte les changements sur le terrain. Un reportage signé Aurore Valory avec notre correspondant Thibaut Durand.
La profession n'est pas devenue plus dangereuse, mais elle est plus aléatoire. Les mots de Benjamin Ribert. Ce guide de haute montagne est aussi président de la compagnie des guides Oisans Écrins, avec une trentaine d'autres guides français, dont la plupart arpentent les montagnes de l'Oisan. Il collecte des données sur les changements observés sur le terrain. Ce programme Guide Sentinelle appartient à celui de Refuge Sentinelle.
L'idée, en fait, c'est de servir du terrain de haute montagne comme d'un terrain d'expérimentation et d'observation. En général, c'est des terrains qui sont en avance. Par exemple, on peut voir ici que le changement climatique, on l'observe deux fois plus fort qu'en vallée. Là, on est à 1 degré, presque bientôt 1,5 degré en vallée. Ici, on a bientôt dépassé les 2 degrés.
Les guides sont en effet en première ligne pour observer ces changements dans un environnement qu'ils connaissent bien.
On va avoir tout d'abord des voies qui sont moins accessibles. Alors juste au-dessus de nous, là, quand on regarde par la fenêtre, on a la Meije orientale qu'on pouvait faire quasiment toute l'année. Là, l'année dernière, ça a été accessible juin jusqu'à mi-juillet. Puis après, c'est devenu vraiment très compliqué. L'autre effet qu'on peut voir, par exemple, ça va être les voies d'escalade rocheuse qui partent depuis un glacier. Comme le glacier en fait descend d'année en année, on a des mètres et des mètres de nouveaux rochers à grimper, mais qui ne sont pas souvent de très bonne qualité et qui ne sont surtout pas équipés.
Touché du doigt, pour Benjamin Ribert, c'est en montrant de façon concrète le changement climatique à ses clients qu'il peut les sensibiliser grâce aussi à des pistes pour agir à leur échelle. Des questionnements que les jeunes générations auraient plus, selon Morgane Boulet. Elle est psychologue sur Briançon.
Eux sont en train de grandir dans cette nouvelle génération. où toutes ces questions sont déjà en train de se développer.
Pour la professionnelle, il est important d'aborder ces questions en famille. Un enfant ou un adolescent qu'il faut placer en situation d'acteur afin de mieux le responsabiliser.
Merci Aurore, un dossier à retrouver sur alpin.com.
Quant à eux, ce n'est pas de l'anxiété qu'ils ressentent, mais de la colère. Les agriculteurs des Alpes de Haute-Provence se disent asphyxiés.
Asphyxiés, voire harcelés par les organismes de contrôle. Dans le viseur, l'Office français de la biodiversité ou encore l'Office national de la forêt. Une centaine d'éleveurs est venue défiler vendredi devant la préfecture de Digne-les-Bains. Margot Mégis, la présidente des jeunes agriculteurs du 04, espère beaucoup de l'entrevue qui a eu lieu avec le préfet Marc Chapuis, notamment dans la mise en place d'une forme de police de ces organismes de contrôle.
C'est abusif, on a l'impression qu'ils veulent casser de l'agriculteur coûte que coûte, et nous on en a marre de cette pression-là sur nos éleveurs qui ont une pression continue vis-à-vis du prédateur. Nous avons été reçus par le préfet sur le sujet d'avoir un organisme qui contrôle ces directions-là. On n'a pas eu forcément de réponse.
Mais ça existe déjà, cette forme de police, de contrôle ?
Non, c'est pour ça qu'on demande, c'est que ce soit l'OFB ou l'ONF, il n'y a pas de cellule supérieure au-dessus d'eux. Ça reste quand même des cellules assez... indépendantes. Et c'est pour ça qu'on a un sentiment que du fait qu'ils soient relativement libres, qu'ils aient des comportements abusifs, parce que de toute façon, ils craignent pas grand-chose après.
Une mobilisation vendredi soutenue par plusieurs élus, notamment David Géhan, le vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou encore Éliane Bareille, présidente du département, ou Christian Girard, député.
Et on commence à repenser l'école alpine de demain.
Dans le cadre du Conseil national de la refondation, le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, a lancé une grande concertation, notre école, faisons-la ensemble. Le coup d'envoi a été donné hier dans les Hautes-Alpes depuis Gap autour de différents élus locaux, du recteur de l'Académie, Bernard Beignet, ou encore de l'inspectrice académique des Hautes-Alpes, Catherine Albaric-Delpech. La concertation va se dérouler entre décembre et janvier. 35 établissements volontaires vont réfléchir à un projet pédagogique à la carte. Il sera éligible aux 500 millions d'euros sur 5 ans dédiés par le CNR. Soyez inventifs et innovants. C'est en tout cas ce qu'appelle de ses voeux Catherine Albaric-Delpech.
L'idée n'est pas d'être exhaustif et de refaire le code de l'éducation. L'idée, c'est de se dire, bah voilà, pour nos élèves, ce qui serait pertinent, c'est ceci. Comment on en discute? Comment on le formalise? Et est-ce que on peut solliciter le fonds d'innovation pédagogique pour les réaliser? Par exemple, vous avez des écoles qui ont envie de travailler sur la cour de récréation, sur des classes flexibles. Il y a beaucoup de choses sur l'espace. Une réflexion sur l'espace, sur le climat scolaire, sur l'école coopérative. Il y a vraiment des projets intéressants qui se dessinent. Mais à ce stade, les communautés éducatives vont organiser leur temps de réunion comme elles le souhaitent. Nous, nous proposons à la DSDEN un accompagnement avec des conseillers pédagogiques, des inspecteurs qui vont accompagner ces communautés éducatives.
Une matinée qui a également été l'opportunité pour les représentants de l'éducation nationale de démarrer un travail pédagogique en amont de la carte scolaire 2023.
Alors imaginez, vous faites le plein d'essence dans une station-service des Hautes-Alpes et le client à côté de vous n'est autre que Bazizou.
Quelle belle surprise pour l'équipe U15 de l'Argentière Sport Les Écrins. Alors que les jeunes joueurs étaient en déplacement ce dimanche pour affronter Fort Calquier, une panne d'essence les a obligés à s'arrêter à Chorges pour faire le plein. Et l'impensable est arrivé, Zinedine Zidane était là. C'est avec sourire et bienveillance que la star française du ballon rond s'est pliée à l'exercice des selfies avec ces jeunes footballeurs. Le conseiller départemental et membre du club de l'Argentière Les Écrins, Rémi Roux, en a profité également pour inviter l'ancien numéro 10 de l'équipe de France eh bien, à venir visiter la structure sportive.
Le prix des lecteurs DLV Aglo 2022 décerné à Laurine Roux.
L'autrice du roman L'autre moitié du monde a remporté samedi cette 6e édition au théâtre Henri Fluchère de Sainte-Tulle. Elle devance les 3 autres finalistes, Philippe Guérin, Ray Curtis et Mariam Sheikh Fared. Une victoire littéraire qui marque la fin d'un long processus démarré en février avec les propositions des lecteurs autour de la thématique de l'invitation au voyage. Plus d'une quarantaine de livres avaient été plébiscités.
Pas de préouverture à Serre-Chevalier-Briançon.
Alors qu'elle était prévue ce week-end, les conditions ne sont pas réunies. Le rendez-vous est donc désormais fixé pour les 10 et 11 décembre prochains.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport.
Eh bien, c'est à une victoire du dernier carré hein, pour les Rapaces.
Ce soir de Coupe de France de hockey sur glace, quart de finale pour les Rapaces de Gap. Après la finale perdue l'an dernier, l'équipe n'a qu'un seul objectif, lever le trophée le 29 janvier prochain à Paris. Mais les hommes d'Éric Blé ont encore deux victoires à aller chercher. La première, c'est ce soir contre les Gothiques d'Amiens, Christophe Lourenço.
Gap Amiens, une affiche que tous les amoureux de la Ligue Magnus connaissent par cœur. Mais pour cette troisième opposition de la saison, le contexte est bien différent. En effet, la défaite est interdite car synonyme d'élimination en quart de finale et surtout de fin du rêve de remporter cette Coupe de France. Même si les hommes d'Éric Blé ont montré plus de régularité que leur adversaire du jour depuis le début de la saison en pointant à la quatrième place avec 10 points d'avance et un match en moins sur le huitième de la Ligue Magnus. La logique voudrait que les Gapensais l'emportent, mais les deux premières rencontres ont bien prouvé que cela ne serait en aucun cas une formalité. Après une victoire difficile 2-1 obtenue fin septembre à domicile, Romain Gutiérrez et consorts n'ont pas existé en Picardie en se faisant balayer 1-5 juste avant la dernière trêve internationale début novembre. Une victoire partout, balle au centre donc ce mardi à 20h30 dans une Alp Arena qui doit jouer son rôle de 7e homme pour aider les Rapaces à rejoindre les demi-finales de la compétition.
Merci Christophe, des résultats à suivre sur Alpe 1.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.